Bonsoir. Clôture la semaine dernière à Bujumbura, au Burundi, de la réunion des directeurs et commissaires généraux des services des migrations des pays de la CPGL. Les participants ont notamment recommandé aux pays de cette communauté, qui sont la RDC, le Rwanda et le Burundi, de ne plus exiger des visas à leurs ressortissants qui traversent les frontières. Quelle lecture faire de cette recommandation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 11 août 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Baudouin Amouli Kabaruza, coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Monsieur Kabaruza, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président du Parti libéral pour le développement, PLD. Il est point focal de la coalition des partis de l'opposition au Nord Kivu. Il est aussi notable de cette province. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir.
Et Samuel Munga, analyste en question internationale, il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Monsieur Munga, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Alphonse Baudry, Lidar ou en province orientale. Les recommandations de la dite rencontre sont à saluer si elles ne sont pas dorées d'hypocrisie comme plusieurs autres assises précédentes avec les pays voisins de l'Est. Merci de nous suivre par son RDC. C'est sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La réunion des directeurs et commissaires généraux des services d'immigration des pays de la CPGL s'est clôturée dans l'après-midi de jeudi dernier à Bujumbura au Burundi. Elle recommande à ces pays de ne plus exiger des visas aux ressortissants de cette communauté qui traverse les frontières. La plus concernée est la RDC qui est accusée par son voisin le Rwanda d'avoir imposé un visa spécifique pour les Rwandais. Autre recommandation, c'est d'assurer aussi l'ouverture des frontières 24 heures sur 24. Touyaga, secrétaire exécutif de la CPGL, revient sur les recommandations de Bujumbura. Il est au micro de Pierre Claver Nironkourou.
Il a fait effectivement mention des cas où, de l'autre côté, en République démocratique du Congo, qui aurait eu imposition de visa aux ressortissants rwandais qui se rendaient en République démocratique du Congo. Il a été aussi question des vendeurs ambulants, mais également pour les élèves et étudiants qui suivent leurs cours dans les pays voisins. On s'est convenu que les uns et les autres vont corriger. Aucun ressortissant ne sera sujet donc à l'imposition de visa pour se rendre dans un pays voisin dans l'espace CPGL. Pour les ressortissants qui vont s'établir dans un autre pays, y exercer une activité commerciale, ils seront soumis aux lois et règlements donc du pays où ils résident. Concernant la frontière entre le Rwanda et la RDC, il y a une réduction des heures d'ouverture suite à l'insécurité qui régnait dans la région. La délégation de la RDC va soumettre cette question donc au gouvernement congolais en vue de revoir cette mesure.
C'était là Herman Touyaga, il est plutôt secrétaire exécutif adjoint de la CPGL. Les directeurs et commissaires généraux des services des migrations des pays de la communauté économique des Grands Lacs CPGL ont invité récemment leurs États membres à supprimer l'imposition du visa au sein de cette communauté. C'était à l'issue d'une rencontre des deux jours qui s'est tenue le 6 et le 7 août dernier. Le Rwanda accuse particulièrement la RDC d'imposer un visa spécifique à ses ressortissants. Pour en savoir un peu plus sur ces sujets, je vous invite à suivre cet entretien entre Guy Maté et Gisèle Cage qui intervient depuis Goma au Nord Kivu.
Bonsoir Gisèle Cage.
Bonsoir Guy Maté.
Dis-moi, comment est réglementée la circulation des biens et des personnes entre les trois pays au niveau des Goma et Gisenyi?
Bon, entre en tout cas la ville de Gisenyi au Rwanda et Goma, les populations de deux pays qui traversent à partir de postes frontaliers dits grandes et petites barrières utilisent généralement les jetons que délivrent leurs services de migration respectifs. Si vous devez aller jusqu'à Kigali, capitale du Rwanda par exemple, c'est un laissez-passer ou un passeport qui est exigé. Et les trois pays ont toujours appliqué cela depuis des années.
Et qu'en est-il des permis de séjour qui est imposé aux ressortissants du Rwanda et du Burundi?
Il faut dire que la Direction générale de migration, la DGM, continue à imposer le permis de séjour aux ressortissants rwandais et burundais. Selon la DGM, les accords de la CEPGL disent que le pays de la CEPGL doit faciliter l'entrée et la circulation des populations de trois pays, mais que chaque pays est autonome quant à l'application de ses lois aux étrangers en matière d'établissement ou pour exercer une quelconque activité. La DGM précise également que depuis la mise en application de cette mesure le 15 juillet dernier, au moins 300 Rwandais ont pu se mettre en ordre et payer le permis de séjour qui fait office de visa de travail. Jusque-là, la DGM n'a pas appliqué des mesures répréhensives contre les ressortissants de pays frontaliers qui ne sont pas encore en règle. Il faut signaler que tout en appliquant cette mesure, la DGM poursuit également la sensibilisation au niveau de postes frontaliers où traversent quotidiennement de milliers d'étrangers qui viennent exercer en RDC. Pour ce qui concerne le Rwanda et le Burundi, les deux pays continuent à imposer eux aussi le visa de résidence, de travail et d'études aux ressortissants congolais. La Direction générale de migration signale qu'il y a plus de 500 ménages des Congolais qui vivent à Gisenyi au Rwanda et à qui on impose le visa de résidence. Une précision, Guy Maté, le permis de séjour exigé par le service de migration congolais ne concerne pas que le Rwandais et le Burundais, même les Tanzaniens, les Kenyans et les Ougandais qui exercent un travail au Congo doivent se mettre en règle.
Et pour terminer, Gisèle, comment ça s'est passé avant l'imposition de ces permis?
Jusqu'en 2010, le Rwanda n'exigeait pas de visa de résidence pour les Congolais qui vivaient dans ce pays. Ce n'est qu'en 2011 que cette décision a été mise en application. Du côté de la RDC, à cause de multiples guerres que l'Est de la RDC, particulièrement le Nord Kivu, a connu, il était difficile d'imposer, par exemple, le permis de séjour aux ressortissants de pays de la CEPGL. Maintenant que la paix est revenue, cela permet à l'État congolais de rétablir son autorité, selon les responsables de la DGM.
Merci, Gisèle Kage.
Merci.
Baudouin Amouli, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRG en sigle. Quelle lecture vous faites de cette recommandation de la réunion des directeurs et commissaires généraux des services d'immigration des pays de la CEPGL? Il faut supprimer l'imposition des visas pour les ressortissants de ces trois pays.
Merci pour la question. La première chose, c'est que nous sommes là dans le cadre de la CEPGL, la Communauté économique des pays de la région des Grands Lacs. Dans ce cadre-là, nos États, nos trois États, le Rwanda, la RDC et le Burundi, ont voulu se créer un espace économique dans lequel donc ils favorisent la libre circulation des personnes et des biens. Sur le plan du principe, c'est très important. On doit progresser, on doit avancer, on doit renforcer la paix, on doit créer le progrès par les affaires, par les échanges. Et ceci est conforme justement aux recommandations de l'Union africaine. Seulement voilà, nous avons eu des préoccupations sécuritaires avec les deux pays à un certain moment. Récemment, le Burundi a dit que nous avions des personnes sur notre territoire qui créaient l'insécurité chez eux. Donc, il y a des préoccupations sécuritaires aux frontières. Avec le Rwanda, vous connaissez le problème. Donc, on a eu le M23 et tout le problème de contrôle de la frontière. D'ailleurs, la brigade internationale de la MONUSCO a deux mandats. Le premier mandat, c'est de neutraliser les forces négatives. Et le deuxième mandat, c'est de surveiller et contrôler les frontières communes, notamment la frontière avec le Rwanda. Donc nous avons des préoccupations sécuritaires réelles qui ont fait qu'à un certain moment, les autorités de nos services d'immigration ont eu à prendre des mesures parce que effectivement, il y avait des problèmes de contrôle de certains ressortissants à la frontière. Et nous avons encore ces préoccupations. Donc, si on a pris ces mesures à un moment, par exemple, où effectivement les gens du M23 n'avaient pas encore bénéficié de l'amnistie, ça se justifie très clairement. Bon, maintenant, si on évolue à l'heure actuelle et qu'il y a eu cette réunion, c'est bien. On doit encourager cela. Mais nous devons encourager surtout, et je pense qu'il est plus important, un dialogue sincère pour la paix et la sécurité entre les États. et que il faut éviter que certains États puissent profiter de la gentillesse des autres pour infiltrer des bandits, des gens qui viennent créer des problèmes.
Alors la RDC a pris cette décision d'imposer le visa sans informer les deux autres pays, c'est-à-dire le Rwanda et le Burundi, parce que ces deux pays accusent le Rwanda d'avoir imposé la RDC, oui.
Oui,
nous
sommes un pays souverain et à chaque moment que la sécurité de notre pays nous oblige de prendre une décision souveraine, nous devons la prendre. C'est pour une question de sécurité de notre pays. Mais cela, bien sûr, n'empêche que...
Mais à quoi sert la CPGL en ce moment?
La CPGL est toujours là. Nous avons, ce n'est pas parce que nous sommes dans la CPGL que nous perdons la souveraineté de notre pays. Nous avons des intérêts supérieurs de notre pays qui commandent qu'à un certain moment nous prenions des décisions qui s'imposent. Et nous, à ce moment-là, nous communiquons nos décisions aux autres pays limitrophes, quitte à ce que les deux autres pays comprennent que nous avons des préoccupations sécuritaires et qu'on travaille ensemble, très franchement, pour pouvoir lever nos craintes que nous puissions avancer comme il faut suivant les règlements.
Ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de réunion entre les chefs d'État de ces trois pays, c'est-à-dire le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Nous ne pouvions pas avoir de sommet de chefs d'État quand nous avions les M23 et toutes les préoccupations que nous avions, sécuritaires que nous avions. Maintenant, je crois que les choses ont progressé et qu'il y a des signaux positifs que nous commençons à voir. Mais nous espérons que ces signaux vont se renforcer. Il y a quelque temps, nous avions ce problème à la frontière, une violation flagrante de notre territoire par les troupes rwandaises. Nous ne pouvons pas accepter cela, absolument pas. Et donc, il faut que nous ayons le sentiment que nos collègues de l'autre côté tiennent au sérieux les préoccupations sécuritaires qui sont des préoccupations de la RDC et que des signaux positifs soient très clairs pour que nous puissions aussi encourager nos autorités, notamment la plus haute autorité du pays, de continuer avec les démarches de coopération, de rassemblement, etc.
Alors, puisqu'il y a eu cette demande des directeurs et commissaires généraux des services d'immigration, la CPGL, des pays membres de la CPGL, faut-il aujourd'hui lever cette mesure d'imposition des visas?
Nous attendons donc l'évaluation de nos services. Si nos services nous disent effectivement que il n'y a plus de préoccupation à ce qui les concerne, très bien, nous pouvons, je pense, passer à une autre phase. Nous n'avons pas de problème puisque nous sommes la CPGL et le principe c'est que nous puissions ouvrir les frontières, mais à un certain moment, comme je vous l'ai dit, si nous avons de préoccupations, nous pouvons prendre une mesure provisoire. Et je crois que c'est celle-là qui a été prise.
Merci Baudouin Amouli Kabarouza. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes vice-président du Parti libéral pour le développement, PLD en sigle. Vous êtes également le point focal de la coalition des partis de l'opposition au Nord Kivu. Également, vous êtes aussi notable de cette province. Comment vous analysez cette recommandation de la CPGL, de la réunion des directeurs et commissaires généraux des services d'immigration des pays membres de la CPGL?
Merci beaucoup, madame. Merci à la Radio Okapi. Je m'en voudrais de ne pas saluer mes co-débatteurs sur le plateau, notamment M. Amouli Kabarouza, avec qui j'ai eu le privilège d'aborder déjà certaines questions sur le plan sous-régional. En fait, il faudrait, à mon avis, revenir d'abord à la raison pour laquelle la CPGL fut créée. Si ma mémoire ne m'abuse, la CPGL a été créée en 1976. C'était notamment pour faciliter l'intégration économique régionale, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, la sécurité régionale ainsi que les financements d'institutions communes dans le domaine de finances, le domaine de la recherche, l'énergie. Et c'est là, entre les trois pays fondateurs, notamment le Rwanda, le Burundi et l'actuelle ère du Congo à l'époque Zaïre. Et qui est donc, au regard de ces éléments qui ont milité pour la création de la CPGL, il en est des principes qui ont régi et qui régissent généralement les relations frontalières entre les États, et au nombre desquels les principes standards qui exigent, par exemple, pour le cas de la CPGL, que le principe de laisser-passer soit maintenu. Lorsque, par exemple, le citoyen du Rwanda ou de la RD Congo doit traverser la frontière et se laisser passer valable pour 3 jours, mais pour une distance de 11 kilomètres de part et d'autre, mais qu'au-delà des 11 kilomètres, par exemple, que l'on puisse imposer des visas. Ça, c'est vraiment le principe standard et qui s'applique par rapport aux pays membres de la CPGL. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui, par exemple, lorsque j'ai fait une analyse de la situation aux frontières de tous les 9 pays voisins de la RD Congo, je suis en train de constater que la République démocratique du Congo applique unilatéralement le système de visas à presque tous les 9 pays frontaliers aujourd'hui, notamment le Congo-Brazzaville. C'est vrai que l'on peut évoquer les questions d'ordre sécuritaire, la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à la suite des événements malheureux du M23, le manque de cohabitation pacifique, mais à mon avis, il n'est pas indiqué qu'aujourd'hui, en se rebiffant derrière des raisons essentiellement sécuritaires, que l'on puisse freiner la circulation de personnes ainsi que de leurs biens. Il ne faut pas oublier, par exemple, pour la ville de Goma, qu'il y a des étudiants qui viennent de Gisenyi et plus loin que Gisenyi qui viennent rechercher la qualité de l'éducation dans les universités ici à Goma. Les commerçants ambulants, ils sont très, très, très nombreux. Les échanges entre les deux villes, la ville de Gisenyi et la ville de Goma, ce sont des aspects qui doivent être pris en compte essentiellement lorsque des mesures comme ça sont prises. C'est vrai, le gouvernement peut avoir raison quelque part lorsqu'il évoque les raisons essentiellement sécuritaires et cet état des choses de l'infiltration de la part des pays voisins, surtout dans cette période de trouble que nous venons de traverser. Je suis content que M. Kabarouza parle aujourd'hui des signaux qui doivent être visibles afin de pouvoir assouplir les mesures d'imposition des visas, mais à mon avis, il était mal indiqué pour la République démocratique du Congo parce que les relations des récits doivent exister dans le cadre de cette communauté sous-régionale. Il était mal indiqué pour la RD Congo de prendre pareille mesure, bien que provisoire, sans avoir informé les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il va falloir que, comme l'a dit M. Kabarouza, s'il y a des signaux qui démontrent le rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays, que le gouvernement puisse revenir à la raison en laissant l'avantage à la circulation des personnes ainsi que de leurs biens et en laissant l'ouverture aux populations des pays voisins de pouvoir circuler librement, surtout dans le cadre de la CPGL.
Mais Monsieur Jean-Paul, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, selon les autorités de la DGM, Goma, le Rwanda impose aussi des visas aux Congolais qui ont envie de se rendre dans ce pays-là.
Bon, évidemment, les visas qui sont imposés, à mon avis, il s'agit d'exactement, il est tout à fait normal, même pour la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a un citoyen congolais qui veut aller s'établir au Rwanda, c'est tout à fait normal. Et dans le cadre de réciprocité, il en est de même pour la République démocratique du Congo. Je pense que Mme Gisèle Cage a su faire état de cet état des choses, qu'il y a plus de 300 Rwandais qui ont accepté de se soumettre aux réglementations de la République démocratique du Congo, mais c'est évidemment dans le cadre de réciprocité, en se disant, bon, ils l'ont imposé par force, nous pouvons aussi le faire, mais c'est là, c'est dans les désavantages de relations frontalières entre les deux villes, et c'est là également aux désavantages des vendeurs ambulants, des étudiants qui quittent Gisenyi pour venir étudier au Rwanda.
Merci.
Et de tout ce qu'il pourrait avoir comme relation entre les deux entités.
Merci, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, Samuel Munga, analyste en questions internationales. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Avantageux ou désavantageux d'imposer un visa pour les ressortissants des pays membres de la CPGL?
Écoutez, je commence rapidement par vous remercier pour votre invitation. Je voudrais aussi, comme l'a fait le prédécesseur, saluer les co-débatteurs. Je n'ai certainement pas la prétention de maîtriser ce dossier d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi avec une attention toute particulière les interventions qui m'ont précédé. Cela étant, je pense qu'il est important de voir les choses de manière dynamique, pas uniquement de manière photographique. Et j'ai apprécié la manière dont les deux co-débatteurs ont introduit leur intervention en se référant d'une certaine manière à l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes dans le contexte de la CPGL, et vous l'avez relevé tout à l'heure, cela fait près de 20 ans qu'il n'y a plus de sommet de chef d'État. Et cela traduit une certaine faiblesse de l'engagement le plus élevé sur le plan diplomatique. Mais enfin, on ne va pas s'étaler là-dessus. Même si, entre-temps, il y a eu quand même des signaux de réveil, avec notamment des réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères, eh bien, c'est une CPGL qui a connu les soubresauts de l'histoire. Et même si c'est vrai qu'au départ, dans son fort intérieur, on sait que la CPGL est une structure d'intégration économique, certaines langues y ont vu plutôt un instrument d'ordre sécuritaire dans les mains d'un puissant homme d'État de l'époque, le président Mobutu, qui gouverne le Zaïre. Enfin, voilà un peu le décor. À côté de cela, il y a aussi le principe même de la libre circulation des personnes et des biens, qui, il faut le reconnaître, est un principe que nous avons, je parle ici en tant qu'Africain, copié d'une certaine manière de ce qui s'est passé ailleurs. On sait aujourd'hui qu'en matière d'intégration économique, le modèle le plus achevé par excellence, c'est l'Union européenne. Alors, sur le plan du continent africain, le développement, vous le savez, se fait de manière articulée autour de ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. On a remarqué, notamment au niveau de la CEDEAO, une volonté affichée de pouvoir amorcer la libre circulation. À la CEMAC, même chose, même si, c'est vrai, il y a eu, pour le cas de la Guinée équatoriale et du Gabon, dans une certaine mesure, des réflexes de repli. Et aujourd'hui, nous parlons de la CPGL. Alors, généralement, il y a des raisons qui sont avancées. Ce sont des raisons de type mythique, si je peux m'exprimer ainsi, qui justifient, entre guillemets, le repli. Parfois, on pense notamment à l'invasion démographique. On peut parler des questions de spoliation économique. On peut aussi parler, évidemment, des questions de criminalité transfrontalière, avec évidemment pour la RDC la problématique de la sécurité. Une problématique importante, et je pense que les deux prédécesseurs ont parfaitement mis l'accent là-dessus, l'Est de notre pays a constitué le ventre mou de l'État congolais pendant longtemps, et a été le carrefour de la déstabilisation, si vous voulez, de notre pays, et par ricochet de l'insécurité qui a affecté aussi les autres pays voisins. On peut très bien comprendre qu'il y ait cette expression plus souverainiste de notre pays, puisque bien que étant dans une logique d'intégration, vous savez que le territoire est un acquis très important de la souveraineté. Il va de soi que dans un souci de promouvoir la paix, dans un souci de veiller à une forme de stabilité qui du reste est profitable à tous ces pays de la sous-région, eh bien, des mesures provisoires fussent-elles contestées, eh bien, peuvent être prises.
Est-ce que ce n'est pas un handicap, je prends les cas des commerçants ou des étudiants qui traversent tous les jours la frontière entre la RDC et le Rwanda, est-ce que ce n'est pas un handicap pour cette catégorie de personnes?
Eh bien, c'est précisément là que se pose le problème, et c'est ça qui rend ce débat assez passionnant, d'une certaine manière. Vous savez, aujourd'hui, entre le Rwanda et la RDC, il y a un mouvement de population assez important, un flux migratoire assez remarquable depuis de nombreuses années, et il existe une économie transfrontalière qu'on ne peut pas nier. Mais voilà, ce sont autant d'éléments, autant d'acquis presque contradictoires qu'il va falloir conjuguer en veillant à ménager les intérêts des uns et des autres.
Alors, il y a cet auditeur, Samuel Munga, qui nous écrit depuis l'Italie, s'appelle Anselme Bin Massoudi. Il dit ceci, la RDC est l'un des pays dont les frontières sont les plus poreuses et les services aux frontières un peu défectueux ne sont pas à même de contrôler les mouvements des étrangers. Cela se remarque par des situations des incursions aussi bien des troupes étrangères dont la présence est parfois signalée après plusieurs jours. En province orientale, par exemple, il y a des centaines de kilomètres des frontières qui ne sont pas contrôlées. Plutôt que de faire plaisir à certains voisins qui ne sont pas de bonne foi, il serait mieux que les visas soient imposés entre les pays de la CPGL. Le temps pour notre pays de se doter des moyens de contrôle des mouvements des populations des pays de la CPGL au niveau de nos frontières par où les problèmes surgissent toujours.
Ben écoutez, il parle de la porosité de nos frontières, mais faut-il encore relever que nous sommes l'un des rares pays à avoir 9 voisins et très peu de frontières du type océan, fleuve, etc., qui sont des véritables barrières naturelles. Et à côté de cela, il est plutôt question de poser la problématique du repli, hein, du repli sur soi qui va en contradiction avec la logique d'une intégration mûrie et avancée. Mais encore une fois, ce type de processus doit bien s'ancrer, hein, dans la réalité régionale. Ça ne doit pas être simplement du copier-coller. Voilà.
Merci Samuel Munga. Baudouin Amouli Kavarouza, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Santé Matumaini depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. L'état actuel ne permet vraiment pas l'application de cette mesure, car non seulement ces pays ne se font pas encore confiance, à ce sens qu'ils s'accusent à tort ou à raison de se sécuriser mutuellement et les relations diplomatiques sont pleines d'hypocrisie. Mais aussi la RDC n'a pas encore la maîtrise de sa population et de ses frontières. Et ses frontières demeurent poreuses par manque de services frontaliers capables de jouer leur rôle. Ceci dit, en appliquant cette mesure, l'insécurité sera de plus en plus aggravée. Les préalables sécuritaires, diplomatiques et politiques sont encore multiples avant de mettre cette mesure en application.
Qu'est-ce que vous en pensez? Il aborde un peu dans le même sens que vous, cet auditeur. Pour lui, il ne faut pas lever cette mesure, il faut continuer à imposer les visas.
Bon, ce que je dis, moi, c'est que nos services d'immigration doivent apprécier et proposer au gouvernement, le moment opportun, la levée de cette mesure qui, pour moi, est provisoire, elle est limitée dans le temps, et elle a été prise pour des raisons particulières que les services ont eu à remarquer. Puisque, dans ce contexte-là, le principe est celui de la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre des engagements de la CPGL. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Le point sur lequel je suis pas d'accord avec lui, c'est de dire que nos services ne sont pas opérationnels, ne sont pas compétentes, etc. Je dois lui dire que s'il a pu voyager ces derniers temps sur nos frontières, il aura constaté certainement de très grandes améliorations. Nos services sont bien plus organisés, les postes frontaliers sont plus organisés à l'heure actuelle et mieux équipés, des bâtiments ont été construits aux frontières, on a même rapproché entre Kavimvira et Bujumbura, on a rapproché même les frontières, on a construit convenablement, nos services d'immigration sont bien équipés, bien organisés, communiquent, etc. C'est même informatisé de plus en plus. À Kamagnola, c'est la même chose. À Bukavu, c'est la même chose. À Goma, c'est la même chose. Mieux organisé. Donc on peut dire que les services d'immigration s'organisent de mieux en mieux et sont de plus en plus équipés. Et cela, je pense, nous rassure du sérieux de la volonté du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, de manière générale, de pouvoir maîtriser les frontières de ce côté-là.
Alors, lorsque vous dites que les services doivent apprécier à quel moment il faudra lever cette mesure, c'est-à-dire lorsque la sécurité va revenir totalement dans cette partie du pays?
Bon, d'abord, je voulais nuancer un peu. Cette mesure n'a pas été appliquée à 100%. Les services sont conscients qu'il existe ce qu'on appelle des migrations pendulaires. Que le matin, il y a des élèves qui vont étudier de deux côtés, je peux dire, et qu'il y a même des gens qui travaillent de deux côtés. Il y a des gens qui sont connus, il y a également les mamans qui vont marcher de deux côtés. Donc, et ces mamans-là, c'est parfois des villageoises, des mamans tout à fait ordinaires, qui ne peuvent même pas avoir de l'argent pour s'acheter un passeport. Moi, j'ai été à ces frontières et j'ai constaté effectivement qu'on leur quand même donnait des jetons pour aller au marché et revenir, qu'on n'exigeait pas nécessairement, pour cette catégorie-là, des gens qui sont connus d'ailleurs, par ailleurs, qu'on n'exigeait pas nécessairement un passeport, un visa. Donc, il y avait un peu de flexibilité quant à la gestion des migrations pendulaires. Par contre, tout ce qui concerne les voyages, comme Maître Lumbulumbu l'a très bien dit, et je lui transmets mes salutations très chaleureuses et fraternelles. C'est très clair que pour ces cas-là, effectivement, on demandait absolument le passeport. Ça, c'était exigé. Si vous voulez aller à Kigali, on vous demandait quand même le passeport. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est pouvoir contrôler à la fois les entrées et les sorties du territoire et qu'on se rassure que tout cela respecte les règles internationales qui sont généralement reconnues dans ce genre de cas. Donc c'est là, comme je l'ai dit, on n'a pas fermé la frontière, pas du tout. Il n'était pas question de fermer la frontière, mais de renforcer un peu la réglementation quant à la frontière, mais tout en sachant qu'il y a des migrations pendulaires qu'il faut gérer dans les cas des échanges des populations.
Est-ce que cette intégration régionale depuis sa création, depuis 1976, est-ce qu'on peut parler des réussites ou de l'échec quand même?
Bon, en tout cas, la CPGL, les gens gardent une très bonne mémoire de la CPGL, je dois dire. La CPGL, pour toutes les populations, que ce soit les populations rwandaises, burundaises et congolaises, ont une mémoire très positive de cette organisation et auraient souhaité que cette organisation fasse un travail comme dans le temps, c'est-à-dire un travail compétent qui favorisait l'ensemble de ces échanges, à la fois les voyages, mais également les travaux des scientifiques, les travaux des politiciens, etc., la justice et tout. Je crois que c'est attendu et je pense qu'on avance assez bien. C'est vrai que le sommet des chefs d'État n'a pas eu lieu, mais les ministres se sont déjà rencontrés plusieurs fois et plusieurs autres responsables de services se sont rencontrés plusieurs fois.
Ils ont pris plusieurs décisions, recommandations, mais malheureusement, ils ne s'appliquent pas.
Oh si, ça s'applique. Même les gouverneurs se sont rencontrés. Non, on avance progressivement. Je suis très positif et très optimiste.
Merci Amouli Kamaruza. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, il y a une réaction aussi pour vous qui nous vient toujours de Bukavu, Sud Kivu.
Émet Chirinda depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'est une très bonne démarche, y compris les représentants des trois pays qui forment la région des Grands Lacs, suspendant les visas aux ressortissants de ces pays membres. Néanmoins, je ne pense pas que la méfiance et la discrimination qui existent entre non seulement la population, mais aussi entre les autorités politiques puissent faciliter l'effectivité de cette recommandation. Car depuis un certain temps, ces États membres font de bonnes propositions, voire des bons projets communs sur papier, mais qui ne se matérialisent pas toujours.
Réaction, Maître Lumbulumbu.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure et je partage totalement son point de vue parce que, écoutez, au niveau de la région des Grands Lacs, et même depuis que la CPG a été créée, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des sommets des chefs d'État, mais dans le cadre, par exemple, de la CIRGEL, nous avons vu le même chef d'État mettre sur pied de très très beaux textes, de très bons textes sur la sécurité, l'intégration économique, la libre circulation de personnes ainsi que de leurs biens aux frontières. Ces textes existent dans plusieurs accords, mais dans l'application, il s'en est suivi un manque criant de volonté politique de la part de chefs d'État de ces mêmes mécanismes. C'est pourquoi je partage totalement le point de vue de cet auditeur. Et d'ailleurs, cela fait partie des faiblesses de droit international, surtout lorsque les mécanismes qui sont mis en place ne prévoient pas des sanctions en cas de violation de telle ou telle autre règle. Et par rapport à la mesure, il faut saluer tout simplement parce que cela permettrait de faciliter à ces commerçants ambulants, à ces étudiants qui traversent la frontière de part et d'autre, de circuler librement. Moi, je me mets à la place de cet étudiant, par exemple, qui habite Goma, qui habite Bissigny, qui doit traverser, à qui on impose un visa. On va l'imposer un visa à l'aller, au retour. Il faudra combien de temps pour que son passeport se trouve être plein? Je pense qu'il y en a, comme l'a dit M. Kadarouz, qu'il y en a qui n'ont même pas la capacité. Ils ont difficile à s'acheter même ne serait-ce que les laisser passer au regard du volume de capital, par exemple, pour les commerçants ambulants. Leur demander les visas, c'est leur demander plus que ce qu'ils m'attendent.
Mais vous avez suivi, là, Maître Lomboulombo, vous avez suivi M. Kabarouza qui a dit que ce visa n'est pas imposé à 100%, on ne l'applique pas à 100%.
Ce visa, certes, on peut dire qu'il n'est pas appliqué à 100%, mais lorsque vous êtes sur terrain ici, vous essayez d'observer, il y a des populations de part et d'autre qui revendiquent que s'il n'est pas appliqué à 100%, il est appliqué à qui et à qui. Il faudrait qu'il y ait lorsqu'une règle est prise, que ce soit une règle tout à fait générale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Kabarouz d'un certain niveau, lorsqu'il évoque des raisons purement sécuritaires, des raisons de pacification qui pourraient justifier cette mesure encore que provisoire, comme il a lui-même dit. Mais ce que je fustige, c'est que de pareilles mesures soient prises unilatéralement sans informer les autres partenaires qui sont le Rwanda, le Burundi, avec qui on évolue dans une communauté qu'on appelle la communauté des pays des Grands Lacs. Donc la mesure, c'est vrai qu'elle peut être prise pour des raisons si bien évoquées, qui ont d'ailleurs été soutenues par l'analyste politique, je n'ai pas retenu le nom, je m'excuse pour ça.
Samuel Monga.
Mais sur le plan de... Oui, Samuel Monga, que je salue en passant, mais sur le plan du principe de la réciprocité des pays dans le cadre d'une telle communauté, je pense que le gouvernement se devrait quand même de pouvoir informer les autres pays et non pas imposer sans avoir... Donc ce que moi je fustige, c'est la manière unilatérale de prendre les mesures, même si au fond les mesures peuvent être justifiées pour des raisons essentiellement sécuritaires, comme le soutient M. Kabarouza.
Alors, une autre recommandation ici de cette réunion, c'est d'assurer l'ouverture des frontières 24 heures sur 24 dans le contexte actuel où il y a encore de l'insécurité dans l'est de la RDC. Est-ce que c'est prudent?
Bon, là, je parlerai en tant que, comme vous m'avez présenté, en tant que l'un des notables de la province, je pense que ce ne serait pas prudent. Parce que c'est vrai que l'on peut évoquer aujourd'hui des signes positifs dans le cadre des relations entre les deux pays, mais tout n'est pas encore parfait pour qu'on se dise que pour le moment, il faut ouvrir les frontières à 24 heures sur 24. Je suis de l'avis de ceux qui pensent que pour le moment, il faut essayer quand même de surveiller de la manière la plus stricte les entrées et les sorties, surtout la journée, de telle sorte que dans les jours qui viennent, lorsque ces signaux dont évoque M. Kabarouza seront effectifs, que l'on puisse rallonger le temps de circulation à 24 heures, parce que tel est le principe, même dans les documents sur la CPGL.
Merci, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, Samuel Monga. Ouverture des frontières 24 heures sur 24.
Écoutez, je ne voudrais pas rétro-pédaler, mais permettez-moi de mettre un peu en évidence un certain point. Lorsqu'on parle de la CPGL, il y a évidemment toute la problématique des projets intégrateurs. Alors, quel bilan faisons-nous exactement de ces projets intégrateurs? Je ne suis pas un spécialiste des questions d'intégration, mais il me semble que la libre circulation des personnes et des biens s'inscrit dans une logique de projet bien consolidé. Prenons l'exemple de l'électricité, de l'électrification. Il y a un défi en termes d'interconnexion des réseaux électriques des trois pays, un défi à relever qui est très important. Il y a aussi tout le problème du transport, du désenclavement. Ce sont autant de défis qui concernent cette partie de l'Afrique qui mérite, à mon humble avis, de trouver une solution tout aussi rapide le besoin de pouvoir faciliter la liberté de circulation des personnes et des biens. Et puis, deuxièmement, là je mets un petit peu la casquette de juriste. On sait qu'en droit interne, si l'on considère les différentes constitutions des pays africains, ou en tout cas les normes supérieures, on se rend bien compte que sur le plan national, sur le plan interne, eh bien, la liberté de circulation des biens, des personnes, est un droit inaliénable. Il est consacré. Mais maintenant, on se rend compte que dès lors qu'on se projette dans la dimension internationale, il y a des obstacles. Sans ces obstacles, sans doute que le débat de ce soir n'aurait pas tout son sens. Mais enfin, cela peut s'expliquer par cette nécessité imposée de céder, ne fût-ce qu'une part de sa souveraineté. Réduire l'ouverture à 24 heures, eh bien, c'est une proposition qui semble être en conformité avec les principes de départ de la CPGL, mais encore une fois, la sécurité vient chambouler la hiérarchie des priorités. C'est très important pour un pays comme le nôtre qui a eu à vivre des situations assez dramatiques, eh bien, c'est très important de pouvoir bien veiller sur le cadre de stabilité. Et en matière de sécurité, lorsqu'on s'appelle la RD Congo, on n'a plus droit de badiner. Voilà, madame.
Il y a Robert Baume de Bukavu, Sud Kivu, qui dit ceci: ces recommandations issues de la rencontre de Bujumbura sont une très bonne chose. Je pense cependant qu'elles risquent d'être inutiles à tous les États signataires au cas où ces derniers ne parviendraient pas à les capitaliser réellement. Autant dire que la définition d'une politique commune claire des migrations s'impose encore à nos États.
Écoutez, c'est le sempiternel débat des forums diplomatiques mondiaux en général et peut-être africains en particulier. C'est après les décisions, qu'est-ce qui suit? Eh bien, il faut la volonté politique. C'est très important que les décideurs politiques emboîtent le pas, mais il faut aussi des vraies mesures de suivi. La liberté de circulation implique une amélioration structurelle, une adaptation structurelle, avec notamment un régime juridique ou des instruments juridiques appropriés.
Et c'est ça qui manque un peu à nos États.
Le débat est ouvert et c'est important que chaque État puisse prendre le temps de bien s'ancrer dans ce nouveau système, et on ne reprochera pas à la RDC qui est un pays légendairement connu comme un pays hospitalier. Je rappelle quand même, et les statistiques de l'ONU le savent, que plus d'un million de réfugiés ont été accueillis dans ce pays. C'est un record. Je vous passe les autres chiffres au niveau d'autres provinces, d'autres pays, pardon, qui sont frontaliers avec la RDC. Donc c'est important qu'on laisse le temps à la RDC de pouvoir bien se repositionner.
Merci Samuel Monga. Nous restons moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Vous allez devoir conclure. Boudouin Amouli Kabarouza, qu'est-ce qu'on retient? On retient pour vous que cette décision doit être appliqué pour un certain temps, le temps que le service puisse apprécier l'évolution de la situation sur terrain.
Oui, ça c'est mon point de vue. Je pense que nous avons, comme je l'ai dit, des préoccupations sécuritaires. Nous avons plus de 700 rebelles M23 au Rwanda. Nous en avons un peu plus en Ouganda. Nous avons eu de gros problèmes d'infiltration au niveau des frontières. Nous avons un contrôle des frontières qui doit être fait avec des drones qui sont dans la région. On a eu des incidents. Nous avons des préoccupations sécuritaires et nous avons bien sûr des accusations à gauche et à droite. Nous, une fois que tout ça et bien apprécier que les choses se calment, nous allons y arriver. Et c'est sûr, la CPGL démarre. La CPGL démarre les projets transfrontaliers, et bientôt la BDGL est récapitalisée.
Merci,
donc Baudouin, on va avancer.
Merci Baudouin Amouli. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, conclusion.
En effet, la libre circulation de personnes ainsi que de leurs biens fait partie des droits inaliénables dans le cadre de la CIRGL. Mais je suis tout à fait d'accord à un certain niveau avec le gouvernement pour la mesure d'imposition. Mais également, pour le moment, nous pensons qu'il faudrait le plus rapidement possible essayer d'assouplir cette mesure-là en faveur des étudiants, des élèves, des travailleurs de part et d'autre, de manière à permettre à notre pays de pouvoir avancer sur ce plan.
Merci, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Samuel Monga, il faut assouplir sa décision.
Je dirais simplement qu'un dialogue constructif permet à un processus d'intégration de pouvoir prétendre à une certaine durée ou une durée certaine dans le temps. Voilà.
Merci à vous très chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Guy Maté, assisté de Samuel Katia sous la supervision de Martin Sebujangwe, qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission. Mimi Kindou était à la régie, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.